Notre invité, il est là.
Oui.
Médecin Karim El Ayoubi, comment allez-vous?
Oui, allô?
Oui.
Oui.
Oui, oui, bonjour, excusez-moi, ça avait coupé.
Sans problème.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, merci.
Oui, ça va bien. On a eu quand même une bonne nouvelle en fin de semaine, les médecins de famille qui reprennent les négos avec le gouvernement du Québec. Comment on peut voir ça?
Oui, absolument. Puis là, c'est ce qu'il faut comprendre, hein, c'est un blitz de négociation. Puis en négociation, lorsqu'on parle d'un blitz, généralement, c'est qu'en coulisses, les acteurs principaux ont une forme d'entente de principe. Ça veut dire, là, c'est pas juste reprendre les négos, c'est vraiment un blitz de négociation. Donc, tout porte à croire que probablement, lorsque le docteur Amiot a rencontré François Legault, là, les deux principaux acteurs de la négociation, donc le président de la FMOQ et le premier ministre lui-même,
ouais,
fort probablement qu'ils se sont entendus sur un principe de base, qu'il y a des technicalités à revoir à la table de négociation. Mais si on se fie à ce que le docteur Amiot a dit, ce que le premier ministre a dit, c'est que là, maintenant, les deux ne se seraient... ce que les deux avaient convenu préalablement n'était pas descendu à la table de négociation. Et là, ça serait vraiment l'entente de principe serait plutôt descendue à la table de négociation. Puis ce serait plus des... on devrait s'attendre avant les fêtes à avoir... une entente signée des deux côtés. Maintenant, bon, est-ce que finalement c'est juste du bluff? Je ne crois pas, parce que ça m'étonnerait, parce que c'est lorsqu'on parle d'un blitz de négociation, ça veut dire qu'on est rendu à la toute fin et il y aurait juste des technicalités à revoir. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour les deux. Bonne nouvelle pour le gouvernement, bonne nouvelle pour les médecins omnipraticiens et bonne nouvelle surtout pour la population, parce que c'est là, en ce moment, on est comme dans le royaume de l'arbitraire.
Oui,
on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est ça qui est le pire, c'est que en ce moment, pourquoi il y a des cliniques qui disent qu'ils vont fermer, il y a des médecins qui... nous, à notre clinique, on a déjà deux retraites anticipées, là, donc on n'est pas dans le bluff. Là, c'est des gens qui renouvellent pas le bail pour 2026. Nous, on le vit en ce moment, puis il y a plein de cliniques qu'ils vivent, c'est qu'il y a des gens qui se disent, bien écoutez, là, on est dans l'arbitraire, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Lorsqu'on fait les calculs, on a des pertes de rémunération qui sont très importantes. Et ça, c'est assez intéressant, hein, parce que on voyait, c'est un article de Francis Veille dans la presse, qui a fait le calcul, il a vraiment fait le calcul, et c'est pas 15% de pertes si les cibles ne sont pas atteintes. Il faut bien comprendre le calcul qui est fait. Puis il y a plusieurs médecins qui ont fait ces calculs-là, dont moi-même. Puis là, on regardait ça, puis on disait, oui, mais c'est pas t'as 100% de ta rémunération si tu atteins les cibles, puis 15% si tu les atteins pas. C'est pas tout à fait ça. Et M. Veille a pris là, des données de pratique de différents médecins. Et il a appelé le gouvernement. Il a été chercher des chiffres au gouvernement aussi, tout ça. Et le calcul, c'est disons que vous atteignez vos cibles, OK? Pour un médecin qui a une pratique en cabinet standard, si vous atteignez toutes les cibles que le ministre veut, c'est une perte de rémunération de 23%.
Oui, c'est ce qu'ils disent. Ce qu'il semblait dire, Francis Veille, c'est que le gouvernement aurait peut-être eu, ou en tout cas, calculé les mauvais chiffres, en tout cas, au niveau de sa grille de calcul.
Bien, du côté de... Donc, il semble donner plus raison à la FMOQ au niveau des calculs. Et si vous n'atteignez pas vos cibles, ben c'est une perte de rémunération de 35%. Tu sais, c'est toujours... C'est majeur. Là. C'est vraiment majeur comme perte de rémunération. Faites juste vous imaginer que vous allez négocier avec la fonction publique, vous dites c'est 35% de perte, ou avec les infirmières, ou avec les professeurs. Il n'y a personne qui va accepter ça. Donc, d'une certaine façon... c'est ça qui semble être le nerf de la guerre en ce moment, plus que le changement de mode de rémunération à la capitation, un pourcentage plus élevé à la capitation, qui peut faire du sens d'une certaine façon. Est-ce que ça révolutionne le système de santé? Bien sûr que non. Est-ce que ça augmente tant que ça l'offre de services? À voir, mais j'en doute. Mais c'est pas là le nerf de la guerre. Et je pense que c'est probablement au niveau de ces calculs-là, ouais, que le gouvernement... est-ce que le gouvernement a été de mauvaise foi ou il a juste été tout croche, il a fait mal les calculs? Je ne le sais pas, puis on ne le saura jamais, fort probablement. Mais c'est sûr que si les chiffres avancés par M. Veille sont vraiment réels, moi, je pense qu'ils le sont parce qu'ils fitent avec les calculs de la FMOQ puis les calculs...
C'est pas pareil, là, 15% de baisse puis 35% de baisse, c'est deux mondes, là.
c'est deux mondes complètement différents. Donc, je pense que c'est ASMA. Je pense que c'est probablement ça qu'ils sont en train de régler à la table des négos. Puis à partir du moment où il y a vraiment une entente qui est signée, claire, ben on n'est plus dans le règne de l'arbitraire et on sait à quoi s'en tenir. Puis à partir de ce moment-là, ben les gens peuvent prendre leur décision. Est-ce qu'ils préfèrent rester, partir? Mais je pense que en ce moment, là où le gouvernement a vu qu'il y avait un problème majeur, et ça, je pense qu'il ne l'avait pas anticipé, c'était les fermetures de cliniques. Parce qu'il faut bien comprendre que si vous avez une perte de revenus de 35 % le salaire du médecin, c'est un chiffre d'affaires. C'est pas un revenu comme lorsque vous êtes salarié à quelque part. Il y a beaucoup de choses à payer. Par exemple, si vous avez 85 ou 90 000 $ par année à payer comme frais de bureau, ben c'est certain que si vous avez une perte de revenus de 35 % ben vous serez pas. Votre réflexe, ça va être de ne plus faire de cabinet et d'aller travailler à l'hôpital. Et ça, ce qui fait en sorte que donc les cliniques, les propriétaires qui ont des cliniques, eux, ben ils perdent les médecins, ils sont plus capables de payer le loyer, ils ferment la clinique.
Ouais.
Et si la clinique ferme, ben ces patients-là, au lieu d'aller au GMF, ils vont refluer où, vous pensez? Dans les urgences.
Donc là, non, c'est un vase communicant, là.
Exactement, c'est un vase communicant, puis je pense que les génies qui ont écrit cette loi-là au sein du gouvernement n'avaient pas anticipé ce type de dommages collatéraux-là, puis là, ils se rendent compte, ils disent, ah ouais, mais là, si on a des GMF qui se mettent à fermer, ben ça va refluer dans les urgences, on va augmenter nos temps d'attente dans les urgences. Si on augmente nos temps d'attente dans les urgences, c'est pas bon pour le tableau de bord, puis c'est pas bon pour la prochaine élection.
Ben non, il y a ça. D'autre part, donc là, ce qu'on comprend, c'est que de part et d'autre, on est allé chercher des mandats, hein, du côté des médecins de famille, on est allé chercher un mandat clair jusqu'où on peut aller, et là, on revient à négo avec un blitz, avec des points précis pour avoir une entente avant les fêtes, hein? C'est ça qu'on comprend. Là.
Exactement. Donc moi, je m'attendrais à ce qu'il y ait une entente avant les fêtes, si vraiment, là, parce que c'est assez rare que lorsqu'il y a des blitz comme ça, qu'il n'y a pas d'entente, donc je m'attendrais, là, idéalement, je pense qu'il va y avoir une entente avant les fêtes. Du moins, je suis confiant de ce côté-là.
Ouais, et les spécialistes attendent aussi, je pense qu'ils sont pas trop loin, hein?
Oui, parce que les spécialistes, il faut comprendre qu'elles les affectent de façon différente. Tout ce qui est là, la capitation, ça s'applique pas aux spécialistes, ça s'applique aux médecins de famille. Les spécialistes, eux, un des points principaux, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque un spécialiste fait une consultation, sa première consultation, elle est payée beaucoup plus que ses suivis. Ce qui est normal, parce que lorsque vous faites affaire, généralement, lorsqu'un médecin de première ligne envoie un patient en spécialité, c'est que c'est un cas qui est complexe de par sa nature. Et le spécialiste, la première rencontre, elle est beaucoup plus longue, parce qu'il faut qu'il défriche tout le dossier. Il faut qu'il y ait une analyse beaucoup plus en profondeur que lorsqu'il fait juste suivre un examen. Et là, il y avait une diminution très, très, très importante du prix, de la bonification de la première consultation, ce qui fait en sorte que certains spécialistes qui font surtout de la clinique, donc des spécialités non chirurgicales, avaient calculé qu'ils pouvaient avoir une perte de rémunération entre 35 et 40 %. Ces chiffres-là n'ont pas été validés là, par un journal comme La Presse ou quelque chose comme ça, mais j'ai assez confiance au calcul de la FMSQ par rapport à cet effet-là. Donc là, vous vous retrouveriez avec des pertes de rémunération qui sont très, très, très importantes. Et c'est sûr que ça les fait paniquer parce que c'est toujours la même chose. Vous perdez 35 à 40 % de votre revenu du jour au lendemain. Vous vivez d'une certaine façon, puis il y a des hypothèques à payer, il y a des trucs à payer.
Ouais.
Donc à partir de ce moment-là, ben c'est, il y en a même qui disent, j'ai eu une rencontre il y a pas longtemps avec mon conseiller financier, puis lui il fait beaucoup de médecins, et ce qu'il me disait, il disait oui, mais c'est parce que il y en a, ils vont juste plus avoir les moyens de payer leur hypothèque là, si c'est diminution de revenus là. Et c'est pas pour faire de la victimisation du tout là, je pense qu'il y a personne qui pleure sur le taux des médecins, c'est pas le cas, mais c'est lorsqu'on fait une analyse globale de la situation, c'est certain que on peut comprendre la FMSQ également de vouloir dire ben au moins diminuez pas notre rémunération. Si vous voulez mettre des facteurs de performance, mettez-en, mais ça peut pas être une diminution qui est aussi drastique que ça. Et je pense qu'ils attendent, puis avant d'avoir une entente, une forme d'entente de principe, avant de faire un blitz, afin d'assurer que leurs membres n'aient pas cette diminution salariale aussi colossale que ça.
Ouais, puis là, il y a des rumeurs. Puis là, écoute, on entend de toutes les sortes, là, mais Une des rumeurs, ce serait que le groupe Biron, qui est déjà dans le privé, TELUS, qui chercherait à acquérir des cliniques GMF en difficulté. Ça, est-ce qu'on entend ça sur le terrain? C'est-tu quelque chose qui roule en background?
Moi, ce que j'entends, c'est que c'est l'inverse, OK? Mais je vous dis pas que c'est pas vrai, là. Mais c'est l'inverse, c'est que les cliniques, en ce moment, les cliniques médicales n'ont plus de valeur sur le marché. Elles n'ont la valeur que l'immobilier en
mais il
soi.
Faudrait, mais... Non, c'est ça, mais il faut leur donner une valeur. Donc, on comprend que derrière ce jeu-là, il y a peut-être des intérêts qui attendent justement que... On ramasse le bundle pour pas grand-chose, puis on redonne une valeur à ça par la suite.
C'est une possibilité. C'est sûr que Biron, qui ont les reins très solides, c'est sûr que s'il y a des cliniques qui sont en faillite, puis des médecins propriétaires qui sont pas en mesure de rembourser l'hypothèque immobilière à la banque, bien, c'est sûr qu'un groupe qui a les reins très solides comme ça pourrait racheter pour...
Une bouchée de pain.
Et après ça, je veux dire, remonter ça, puis faire en sorte que ça prenne une valeur. Sur le plan fiscal, ça fait du sens, mais en tout cas, moi je n'ai pas, j'ai pas entendu là, qu'il y a des gens qui ont été approchés directement. J'ai pas entendu ça.
On voit aussi l'Ontario, hein, parce que on parle que l'Ontario est très agressif, mais on comprend parce que là, on a comme des chiffres qui sortent. Eux autres, ils ont un besoin de 2000 médecins de famille supplémentaires. Donc eux autres sont très agressifs puis ils mettent le paquet, là.
Oui, et la réalité du Canada anglais, elle est particulière parce que tu sais, quand on dit de façon humoristique que le Québec est un dôme, ça s'applique aussi aux médecins d'une certaine façon. Parce que lorsqu'on regarde, je me rappelle, moi, quand j'étais étudiant en médecine, puis je passais les examens américains. En même temps de passer les examens canadiens, examens américains, c'est les USMLE, United States Medical Licensing Examination. J'avais l'air d'un extraterrestre au Québec quand je faisais ces examens-là. Je disais, pourquoi tu fais ça? Par contre, au Canada anglais, des collègues que je connais au Canada anglais, c'est la norme, là. À chaque fois que tu passes un examen canadien, parce que c'est à peu près la même chose, Canada, États-Unis, c'est le même niveau de difficulté, tu passes l'américain aussi, en cas où qu'un jour tu veux aller aux États-Unis. Et donc, les gens au Canada anglais ont une tendance et comme les Américains aussi, à être beaucoup plus mobilisables d'une province à l'autre. Et c'est classique dans les facultés de médecine du Canada anglais, certaines spécialités forment volontairement. Le gouvernement forme volontairement plus de spécialistes parce qu'il sait qu'il y en a un pourcentage qui automatiquement vont aller travailler aux États-Unis. Il y a un aspect linguistique, culturel. Les médecins au Québec ont tendance à demeurer plus au Québec que les médecins des provinces canadiennes. Ça, c'est une réalité. Il y a un flux migratoire vers les États-Unis qui est plus important. Donc, c'est sûr qu'eux, quand ils voient ça, ben ils veulent récupérer ce flux migratoire-là. Si les médecins sont pas bien au Québec, ben nous, on en perd pour les États-Unis. On va les faire venir chez nous. Si j'étais au gouvernement ontarien, je ferais exactement la même chose.
Ben oui, non, c'est sûr. Puis il y a quand même des particularités en Ontario. Hein, on a quoi? On a plus de patients par médecin. Ils ont une autre façon de gérer le réseau. On pourrait s'en inspirer d'ailleurs de l'Ontario.
Oui, bien, l'Ontario, ce qui est intéressant avec l'Ontario, c'est que c'est un modèle qui est beaucoup, beaucoup plus décentralisé qu'au Québec.
Oui, exact.
C'est que même si le privé, c'est négligeable dans toutes les provinces canadiennes, incluant le Québec. Le Québec, c'est 3,5 %.
Ouais, c'est rien.
Puis Canada anglais, il y en a vraiment pas beaucoup. Le privé est très négligeable au Canada. Il faudrait qu'il y en ait plus, tant qu'à moi. Mais si on parle même pas du privé, la façon dont le système fonctionne en Ontario, il n'y a pas ce qu'on appelle les AMP, les PREM, les PM. Que tous les postes sont déterminés par le gouvernement un peu partout, puis tu as besoin d'une autorisation du gouvernement pour te mobiliser. C'est tu négocies directement avec une clinique ou un hôpital, puis si cette clinique et cet hôpital-là veulent t'avoir, tu peux y aller tout simplement.
Exact.
Donc, tu as une possibilité, tu as une concurrence qui est plus élevée à travers le réseau lui-même. Tu peux, si ça fait pas ton affaire dans un endroit, tu peux aller dans un autre établissement. Et ça, un des gros avantages, c'est que l'employeur, qui sont tes gestionnaires, ben ils ont besoin d'innover et ils ont besoin de faire en sorte qu'il y ait une ambiance de travail que les employés sont plus satisfaits parce qu'ils sont beaucoup plus mobilisables. Donc, tu as une concurrence à l'intérieur même du réseau public, ce que tu n'as pas au Québec.
Ce qu'on pourrait faire, ça ferait du bien, là, au Québec, ça, oui.
Oui, ben oui, je vais vous présenter un beau projet de loi là-dessus.
Okay,
dans pas trop longtemps, je suis en rédaction. Mais oui, je pense qu'il faut revoir tout le concept là, très rigide de la planification centrale avec les AMP, les PREM, les PEM. Quand le gouvernement veut trop en faire, puis quand le gouvernement met trop ses pattes un peu partout, fourre son nez un peu partout, on perd en fluidité, on perd en efficacité. Et on le voit là. Même sans parler du privé, le système ontarien est un système qui est plus performant en soi que le système québécois.
Alors, ça va être des prochains mois très excitants. Et là, on va voir si on est capable d'avoir un blitz et vraiment une entente avec les médecins de famille puis les spécialistes avant les fêtes. D'après moi, ça sent ça beaucoup. Là, on veut régler avant ça, avant de partir pour les fêtes, les parties des fêtes. Karim El Ayoubi, médecin, merci beaucoup de vos lumières et à la prochaine.
Ça m'a fait plaisir, au revoir. Au revoir.
Bonne journée.
Intéressant.
Oui, oui.
Lui, il dit en Ontario, on a à apprendre beaucoup des Ontariens aussi. Ils gèrent le réseau beaucoup décentralisé. On laisse beaucoup de...
Marge de manœuvre.
Marge de manœuvre. Puis de
aux hôpitaux.
De responsabilité. Ben oui. Puis elles doivent être belles. Elles doivent séduire les médecins.
Puis ici, c'est parce que c'est des régies qui sont devenus des agences, qui sont devenus des CIUS.
Puis là, tu as des Santé Québec en haut qui gèrent tout ça.
Enlève
là.
Tout ça puis donne le budget aux hôpitaux directement.
Ouais.
Tabarouette, enlève une structure qui coûte une fortune. Mais non, mais non.
Imagines-tu? T'enlèves deux, trois structures.
C'est ça. C'est... Oui. L'organigramme, Pierre. La pyramide de monde.
Voilà.
Qui coûte une fortune.
Très intéressant. Et là, lui, selon Karim El Ayoubi, on aurait une entente prochaine à portée de main avec les médecins de famille. Et quand tu as les médecins de famille qui règlent, après ça, les spécialistes embarquent. Ils suivent la run. Et on aurait une entente possible d'ici prochain jour. On va se le souhaiter.
Nous verrons.
Après la pause, est-ce que tu crois au retour des Nordiques?
J'aimerais ça. J'y crois de moins en moins parce que les franchises sont quoi? 1,5 milliard US, 2 milliards US?
Quand je te dis, c'est pas un problème, l'argent.
Ah!
Est-ce que tu crois au retour des expos?
Ben, on dirait que j'y crois un peu plus.
Bon, on va jaser avec
du monde. Mais ça prend un stade.
On jase avec quelqu'un après la pause. Lui, il a des contacts partout sur la planète. Lui, il a du cash. Lui, il connaît du monde qui ont du cash. On revient.
Et à un moment donné, les gens verront les vraies réponses. L'argent, là, est autour de vous.
Couture dans le mid. Radio. X.